J'ai un ami qui s'appelle Baudouin. Et Baudouin, il a la conviction que je suis fou. Il pense que je suis fou parce que je passe mes journées dans un laboratoire à étudier des gènes. La génétique. Baudouin ne comprend pas qu'on puisse passer ses journées à étudier des gènes. Si vous allez au café du commerce et que vous demandez un petit peu ce que les gens pensent de la science et des scientifiques, qu'allez-vous récolter comme image ? Des choses que l'on trouve dans les bandes dessinées, Tournesol, dans les films, le docteur Follamour. On va avoir affaire à des génies fous, des gens incompréhensibles, des gens à mauvais dessein. Tout ça, c'est pas vrai. J'ai la conviction que la science et les scientifiques sont mythifiés. La science est mythifiée parce qu'elle est fondamentalement méconnue. Elle est méconnue parce que dans son langage, dans les concepts qu'elle utilise, souvent, elle nous paraît incompréhensible. Ou en tout cas, on a l'impression qu'elle nous échappe. Qu'est-ce que c'est qu'un gène ? Qu'est-ce que c'est qu'un boson ? Qu'est-ce que c'est que sont les interactions entre les particules ? Et de cette méconnaissance va résulter ensuite une certaine méfiance. Parce qu'on n'aime pas que les choses nous échappent, on s'en méfie. Cette méfiance va également être alimentée par les développements technologiques que la science va amener. Et ces développements technologiques, on ne sait jamais s'ils sont bons pour nous, l'humanité, ou s'ils servent certains intérêts privés, des grands groupes financiers. Méfiance aussi parce qu'on a parfois l'impression que la science ne remplit pas ses promesses. Mais quelle promesse ? Quelle promesse fait la science ? De manière bizarre, à la fois on méconnaît la science, en même temps on a l'impression qu'elle est super puissante, qu'on va guérir toutes les maladies. Mais ça aussi, c'est une fausse idée. Parce que la science qui aborde la réalité, well, la réalité, elle est incommensurable. Le travail de la science n'est jamais fini. La vérité scientifique n'est jamais ultime. Bref, aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est d'essayer de démythifier la science. Je vais essayer de briser certaines idées reçues, vous montrer ce que c'est qu'un scientifique, c'est quoi le travail du scientifique. Et j'aimerais partager avec vous la vision que j'ai que la science est un bienfait pour l'humanité. Alors, le chercheur, c'est d'abord un découvreur. Vous connaissez tous cet adage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, selon lequel des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Ça vous amuse peut-être, moi, pas tellement. Pas tellement parce qu'en fait, et ça, je pense que très souvent on l'ignore, tous les chercheurs découvrent. Bien évidemment, pas des choses que l'on va entendre à la télé, à la radio, trop souvent. Plein de petites choses. Et je vais prendre un exemple. J'ai lu il n'y a pas très longtemps que le gène OXB1 contrôle la différenciation et la prolifération cellulaire au niveau des progéniteurs du second champ cardiaque au sein du mésoderme pharyngien et que ce gène est en interaction avec le gène OXA1. Waouh, super. Là, je tombe exactement dans le travers que je dénonçais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça a l'air complètement abscon, mais ça ne l'est pas du tout. Ce sont des petites découvertes de ce genre-là qui s'accumulent les unes aux autres, que l'on réalise dans tous nos laboratoires. Et qui finalement permettent, à un moment donné, de comprendre les choses. C'est en faisant ce genre de recherche que l'on comprend comment des molécules interagissent entre elles, comment est-ce que ces molécules interagissent au sein de cellules, comment ces cellules se mettent ensemble pour, au cours du développement de l'embryon, par exemple, former un cœur qui marche. Ça permet aussi de comprendre comment parfois ça ne marche pas, comment des maladies cardiovasculaires apparaissent, etc. etc. Mais chacune de ces petites découvertes qui ont l'air absconce. Chacune correspond à un pas vers le monde de l'inconnu. Chacun des chercheurs, au quotidien, transgresse la frontière qui sépare le monde connu du monde inconnu. Le chercheur qui se trouve devant cette découverte est le premier à mettre ses pieds là, il est le premier à porter le regard sur cette chose. Les chercheurs de mon laboratoire font tous les jours des découvertes, ils voient des choses que personne n'avait vues avant. Transgresser les frontières de l'inconnu. C'est un des premiers objectifs de la science. Et si je prends l'accumulation de ces recherches, eh bien, elles vont amener à revoir le monde, à redéfinir, à représenter différemment le monde. La science est avant tout une œuvre de représentation du monde. Et je vais prendre un deuxième exemple, emprunté cette fois à la cosmologie. Alors vous connaissez très certainement la célébrissime équation d'Einstein E=mc² qui sous-entend, enfin qui explicite plutôt que la masse, c'est de l'énergie. Vous connaissez peut-être aussi l'équation de champ d'Einstein. Là, je m'aventure sur une terre inconnue pour ma part, mais qui va témoigner du fait que la masse déforme l'espace-temps. Et en partant de ces mathématiques qui représentent le monde, je peux représenter, par exemple, des choses virtuellement invisibles, comme des trous noirs, comme un trou noir supermassif au sein d'une galaxie. Je peux aussi, en jouant avec ce langage mathématique, avec cette représentation du monde, je peux témoigner de comment une étoile interagirait avec un trou noir, par exemple. Eh bien ça, moi, ça me fascine. C'est absolument remarquable de s'imaginer ces étoiles qui rencontrent les trous noirs, absolument remarquable de comprendre comment ces gènes dialoguent les uns avec les autres pour mettre un cœur en place. Le scientifique qui travaille à la représentation du monde, fondamentalement, son action est une action créative, parce qu'il faut de l'imagination pour écrire ces équations, pour écrire ces modèles qui expliquent la vie ou les choses de l'univers. Cette créativité-là, le scientifique la partage avec l'artiste. Évidemment, la science, ce n'est pas de l'art. La science a pour objectif d'avoir un discours objectif. La science est contrainte par la logique. La science, elle souhaite être partagée. Mais malgré tout, le scientifique va avoir ce travail d'équilibriste entre de l'imagination, de la fantaisie et la rigueur scientifique. Maintenant, partir à la découverte. Pourquoi ? Pourquoi les chercheurs partent à la découverte ? Parce que les chercheurs ne veulent jamais tenir comme acquise une certitude. Le chercheur remet toujours en question. Au laboratoire, sans cesse, on doute, on dit « Tiens, mais cette observation-là ne colle pas avec ce qui a été publié. » Remettre en question. Remettre en question pour transgresser cette frontière qui sépare le monde connu du monde inconnu. Eh bien, il faut l'oser. Il faut l'oser. C'est inconfortable de ne pas s'asseoir sous des certitudes immuables. Et donc, le chercheur est un aventurier. La science est une aventure humaine. Et cette aventure humaine est une aventure collective. Vous connaissez Einstein, vous connaissez Darwin, vous connaissez Marie Curie, tous ces grands chercheurs qui, évidemment, ont contribué de manière majeure à la science, ne seraient rien sans une collectivité de scientifiques plus ou moins anonymes qui ont fait toutes ces petites découvertes qui portent les grandes. La science est donc une aventure humaine collective. Mais plus que ça, la science doit s'incarner dans la société et elle s'incarne dans la société. Les grandes découvertes, les changements de paradigme ne sont possibles que si la société au sein de laquelle la science se joue est prête à ce changement de paradigme. Et en ce sens, la science devient une aventure de civilisation. Révolution copernicienne, Galilée, cet changement de paradigme n'aurait pas pu trouver place ailleurs que durant la période de la Renaissance. Darwin, l'évolution des espèces, incarnée dans une société en évolution, la révolution industrielle de l'Angleterre du XIXe siècle. La science est une aventure de civilisation. La société, en retour, va investir la science. Et là, le génie du découvreur cède la place au génie de l'inventeur. La science est utilisée, les connaissances sont utilisées pour générer des inventions. Des inventions pourquoi ? Pour le bien de l'homme et le bien de la nature. C'est peut-être là que mon ami Baudouin revient. C'est là où Baudouin va dire « Oui, le bien de l'homme, le bien de la nature. En est-on certain ?» La question est de savoir comment est-ce que la société investit la science. Et dans une certaine mesure, la manière dont la société investit la science en dit évidemment beaucoup plus sur les valeurs de la société que la valeur de la science. Ici, le centre de gravité de la société n'est plus l'être humain. On imagine bien que l'exploitation de la science ne servira plus non plus l'humanité. Ceci veut donc dire que quand on se méfie de la science, les amis du Café du Commerce et mon ami Baudouin qui se méfient de la science, ils se trompent. Ce n'est pas la science qui doit inquiéter, mais bien la société qui s'en investit. Donc, n'oublions jamais ceci. La science est une activité de découverte. La science est une œuvre de représentation du monde. La science est une aventure humaine qui a pour objectif de générer des connaissances. Et mon credo, franchement, c'est que la connaissance, c'est le premier patrimoine de l'humanité. Et avec ceci, je vous remercie.